France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
Brian,
monsieur,
donnez des ordres pour une édition spéciale. Les armées alliées à 10 lieues de Sébastopol.
Les armées alliées à 10 lieues de Sébastopol. Bon.
Courte et brillante campagne.
Oui.
Victoire épaisse certaine avant l'hiver.
Bien.
Morale des troupes excellent.
Oui.
Entente complète entre les commandements français et anglais.
Bien, monsieur.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. L'agression de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine, parmi tant de conséquences profondes, immédiates ou à venir, a redonné soudain à la mer Noire la situation à la fois de décor et d'enjeu qu'elle avait occupée souvent dans l'histoire, mais qui avait moins attiré, dans un passé récent, l'attention et la curiosité. Voici que le Bosphore, Odessa, Sébastopol, la Crimée ont fait à nouveau se pencher nos têtes sur les cartes de géographie qui les portent. Et de là est née l'idée de cette émission consacrée à la mer Noire. Depuis le temps au début de notre ère où l'empereur Auguste y exilait le poète Ovide en punition suprême comme en des confins d'absolue barbarie, les choses ont beaucoup changé et diverses civilisations s'y sont affrontées. On a vu y prospérer des concupiscences diverses, des géostratégies en ardente opposition, la brutalité des intérêts commerciaux, le choc des rivalités religieuses, passionnelles et impitoyables. Avec un moment crucial, sur lequel surtout nous allons braquer notre attention, celui de la guerre de Crimée au mi-temps du XIXe siècle, qui vit s'affronter, peut-être, faut-il dire déjà, d'un côté la Russie et de l'autre les Français, les Anglais, les Sardes et les Turcs de l'Empire ottoman. Marie-Pierre Rey, mon invité, est professeur émérite d'histoire russe et soviétique à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et ancienne directrice du Centre de recherche sur l'histoire des Slaves. Ses travaux font autorité, en dialogue souvent, implicite ou explicite, entre le passé et le présent. Nous allons voir avec elle que la guerre de Crimée, qui est restée plus présente dans la mémoire collective des Russes et des Anglais que dans la nôtre, mérite d'être mieux connue chez nous, afin de servir la compréhension de son époque, mais aussi, probablement, de la nôtre. Et d'abord, je vais vous conduire sur les bords de la mer Noire avec le poète Ovide, qui avait été exilé par l'empereur Auguste au tout début de notre ère. Écoutons-le s'exprimer dans un recueil fameux de poèmes qui s'appelait « Les Pontiques ».
Je vis ici en pleine barbarie, entouré de sarmates, de jettes et de baisses et d'autres dont je ne sais pas le nom. À la belle saison, le rempart du Danube défend nos murs contre tous ces pillards, mais quand l'hiver, avec son visage farouche sur la nature, étend un gel de marbre et que la neige et que les vents sont à nos portes, nous attendons l'arrivée des barbares. Mes pauvres compagnons se protègent du froid, tant bien que mal, avec des peaux, des brais. On ne voit que leurs yeux et leurs cheveux eux-mêmes, pris par le froid, teintent comme du verre. On ne boit pas le vin, on en suce le bloc. Et le Danube, aussi grand que le Nil, est gelé. Le cheval passe ou frappait les rames, et le bœuf tire ou passait les bateaux. C'est alors que surgit le cavalier sarmate. Il pille et brûle tout sur son chemin, le champ et le bétail. Qu'aucun mur ne protège, reste 100 mètres et le feu les dévore. Le paysan s'enfuit, sa fortune est détruite, et c'est à nous de le nourrir encore.
Marie-Pierre Rey, bonjour.
Bonjour.
Vous l'aimez aussi, notre Ovide ?
Absolument, bien sûr, surtout dans ce passage très intéressant.
C'est un Un extrait de, donc des Pontiques. Nous sommes à peu près 12e année après le début de notre ère. C'est une lecture de Julien Berthaud dans l'anthologie étrangère de Jean Debert qui avait été diffusée le 1er février 1961. On s'interroge toujours chez les savants, chez les érudits, sur le motif de cet exil d'Ovid, qui était un poète à Rome célébré, un poète mondain et un grand poète, l'auteur des Métamorphoses. On n'en sait toujours rien en réalité.
Oui, pour ma part, je ne peux rien vous dire à ce sujet, mais en tout cas, le passage est très intéressant parce qu'il dit beaucoup de cette région. D'abord, effectivement, qu'il y est exilé, donc ce n'est pas son choix, et on voit qu'il y est très malheureux. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit sur cette barbarie qui l'entoure, sur les fameux sarmates qui déferlent. Et cela renvoie en fait à la dimension un petit peu dangereuse de cette région, puisqu'on a des nomades, ces fameux sarmates. Et puis il mentionne aussi les conditions climatiques très dures des hivers qui en fait seront extrêmement douloureuses aussi pour nos fameux soldats, nos futurs soldats de la guerre de Crimée.
Il est à Tomis, qui est aujourd'hui Constanza, où il y a d'ailleurs des troupes françaises aujourd'hui.
Oui, alors la Crimée, c'est... Cela aussi, c'est ce contraste entre l'imaginaire que l'on a, un climat méditerranéen qui est réel, mais également des conditions climatiques très, très difficiles durant les hivers. Et en cela, aussi, Ovid est intéressant, et puis, encore une fois, par la violence qu'il souligne dans cet extrait.
On est vraiment aux confins du monde civilisé, à ses yeux.
Oui, il emploie le terme barbare et barbarie, donc...
C'était bien le but d'Auguste, de lui enjoindre d'y aller.
Sans doute pour cette raison-là, effectivement.
En même temps, les Grecs ont déjà, avant lui, mythifié quelque peu la région, la Tauride.
Alors, en réalité, en dépit de cette image de barbarie, la région, la Crimée, a été d'ailleurs habitée depuis le Paléolithique et elle est de nouveau habitée dans l'Antiquité grecque. Alors, on l'appelle à ce moment-là le pont Euxin, qui veut dire la mer amicale. C'est une mer sur laquelle on peut naviguer. Et dans le sud de la Crimée, le climat est doux et on a aujourd'hui encore le seul d'ailleurs site classé patrimoine mondial UNESCO, qui est en fait l'ancienne Chersonèse taurique, tout près de Sébastopol, et qui était une cité grecque très très active, très riche, fondée au 5e siècle, et où on voit l'activité de la région. Alors à la fois des échanges commerciaux, une agriculture prospère, et la pratique déjà de la viticulture qui fera la richesse de la Crimée au XIXe siècle. Donc c'est fascinant de voir que finalement, dans cette antiquité grecque, on a déjà presque toute la richesse future de la Crimée.
Je dois vous demander, à l'orée de notre conversation, Marie-Pierre Rey, de rappeler quelle est la géographie de la mer Noire. C'est un espace qui correspond à peu près à 2/3 du territoire français.
Oui, alors la mer Noire, c'est un vaste espace, et la mer, donc, la mer Noire communique au sud-ouest par le détroit du Bosphore avec la mer de Marmara, qui elle-même est reliée à la Méditerranée par le détroit des Dardanelles.
Les Bosphores sont évidemment constamment un enjeu.
Absolument.
Dans la lutte entre les puissances.
Absolument, c'est un enjeu maritime et stratégique fondamental, très tôt, et je dirais jusqu'à aujourd'hui.
La mer Noire est entourée de toute une série de pays qui méritent, si on part du sud avec la Turquie, autrefois l'Empire Ottoman, en suivant les aiguilles d'une montre, on trouve ensuite la Bulgarie, la Roumanie, l'Ukraine, la Russie naturellement, et la Géorgie.
Oui, c'est un ensemble très composite d'États qui vont progressivement émerger de manière indépendante, mais dont beaucoup, effectivement, selon l'époque à laquelle on se situe, appartiennent, relèvent de l'Empire ottoman pour une grande partie d'entre eux. Alors, il faut mentionner, et c'est très important, si on fait un saut dans le temps pour expliquer ce qui s'est passé entre Ovide, si je puis dire, et l'Antiquité grecque à Ovide et plus récemment, à partir du XIIIe siècle, la Crimée a été progressivement conquise par l'Empire turco-mongol de la Horde d'Or,
qui est la Horde d'Or.
Voilà, un des personnages que nous n'avions pas encore mentionné. Et dans cette Horde d'Or, on a une population turcophone, les Tatars, qui vont s'installer donc dans la région.
Musulmans.
Alors, ils ne sont pas au départ musulmans, mais ils vont se convertir progressivement, effectivement, à l'islam, sous l'influence de l'Empire ottoman. Et ils deviennent un protectorat de l'Empire ottoman jusqu'à l'annexion de la Crimée par Catherine II en 1783.
Ce qu'on appelle un Khanat.
Khanat. Oui, voilà, c'est cela. puisque c'est la tradition de cette horde mongole, de ces Han mongols, qui ont été très puissants, mais qui sont à ce moment-là en perte d'influence et qui vont disparaître. Et il va rester quelques poches, pourrait-on dire, héritières de cette horde d'or, dont le fameux Khana ou Khana de Crimée.
Alors c'est arrivé de la Grande Catherine et des Russes vers la mer Noire, avec le souhait évidemment de ne pas s'ouvrir uniquement vers le nord, le Baltique qui gelait l'hiver, cette arrivée est une date essentielle.
Absolument, mais elle est un peu précédée par des tentatives que l'on observe sous Pierre le Grand.
Pierre le Grand, avant Catherine, de fait, je vous propose cet extrait, n'avons pas des archives de l'époque, je ne vous surprendrai pas, radiophonique, je vous propose cet extrait de la mini-série télévisée qui s'appelait Pierre le Grand de Marvin Chomsky, qui remonte à 1986 avec la voix du tsar.
J'entends bien bouter les Turcs hors de Russie afin que nous ayons une voie maritime vers le sud. Et si nous avons accès à la mer Noire, il nous faudra des bâtiments de haute mer avec des quilles profondes. Nous apprendrons à les construire nous-mêmes, comme nous l'avons fait pour nos bateaux de rivière. Ainsi, messieurs, nous avons là le Don et le Donette sur la rive droite. Nous sommes là, à leur confluent, et le but que nous visons est le fort d'Azov. Alors ce soir, sous le couvert de l'obscurité, nos barques équipées de canons pénétreront dans la mer d'Azov, et elles pilonneront le fort depuis cette position.
Majesté.
Colonel.
Ne seront-elles pas exposées à des tirs venant de ce même fort?
Leurs tirs n'arriveront pas à destination.
En dépit de leur position.
Nos agents de renseignement nous ont assuré de la vétusté du matériel turc.
Vous le retrouvez là, votre Pierre le Grand, Marie-Pierre Rey?
Absolument, il est en fait le premier tsar de Russie à s'intéresser à la région, mais il va mener deux campagnes militaires successives en 1695 et 1696 contre l'Empire ottoman, dont il a un peu sous-estimé la capacité de résistance, mais il parvient tout de même à son objectif, à savoir la prise de la forteresse turque d'Azov, qui est mentionnée dans l'extrait, ce qui va faciliter l'accès de la Russie à la mer d'Azov. Et évidemment avec en ligne de mire, si je puis dire, la mer Noire. Mais ce sont des prémices, il ne va pas transformer ce premier essai, si je puis dire, et c'est Catherine II, en réalité, qui va vraiment avoir une politique russe concernant la mer Noire et la Crimée.
Notamment la Crimée, cette péninsule qui s'avance à l'intérieur de la mer Noire.
Voilà. Et pour Catherine, en réalité, la Crimée s'intègre dans un ensemble d'objectifs très larges.
Oui, de fait, à l'époque, on a le sentiment que c'est une opposition presque binaire, en dehors de la question des Bosphores, entre l'Empire ottoman et l'Empire turc. Et puis tout va se compliquer au XIXe siècle, à l'origine de cette guerre de Crimée, à quoi nous allons consacrer principalement notre émission.
Oui, alors, en réalité, comme vous venez de le souligner, au départ, on a une relation presque bilatérale. Et le point fondamental, la date fondamentale, c'est le traité de Kutchuk-Kainardji, qui est conclu par Catherine II en 1774, qui va apporter à la Russie des gains territoriaux, qui confirme la possession d'Azov, mais qui concède aussi à la Russie des avantages économiques et géopolitiques. C'est ainsi que le Khanat Tatar de Crimée, qui était jusque-là vassal de l'Empire ottoman, devient indépendant, ce qui facilitera plus tard son annexion par Catherine.
C'est la fin du monopole ottoman qui existait depuis la prise de Constantinople en 1453.
C'est cela. Et par ailleurs, la flotte russe est autorisée à naviguer dans la mer Noire et à circuler librement dans les détroits. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment fondamental. Et puis, on a d'autres éléments géopolitiques, à savoir que les principautés, et cela, on va les retrouver pendant la guerre de Crimée, les principautés danubiennes de Moldavie et de Valachie, qui étaient jusque-là sous tutelle ottomane exclusive, passent sous un condominium russo-turc, ce qui donne évidemment à la Russie déjà un droit de regard. Et puis, autre élément très important, qui là aussi va prendre de plus en plus d'importance au XIXe siècle, la Russie va obtenir un droit, alors formulé de façon assez vague, mais qu'elle va interpréter progressivement dans le sens qui lui sera le plus favorable, un droit de regard sur le sort des chrétiens orthodoxes de l'Empire ottoman.
Ça va être un autre motif de la guerre de Crimée, bien sûr.
Bien sûr, voilà.
Motif religieux,
absolument.
Les lieux saints.
Absolument. Alors, ce premier traité donc de Kutchuk-Kainardji, donc parfaitement bilatéral, il est renforcé, pourrait-on dire, par un autre traité qui suit une nouvelle guerre en 1792, qui confirme les clauses de ce premier traité et qui entérine l'annexion de la Crimée. Alors, ce qu'il faut bien voir, hein, c'est qu'on est là toujours dans une relation bilatérale au profit de la Russie qui grignote, pourrait-on dire, à son avantage, l'Empire ottoman.
Qui vient coloniser largement le nord de la mer Noire, en particulier avec le développement de la ville d'Odessa qui est fondamentale.
Alors, en fait, on a d'abord, pour ce qui concerne la Crimée proprement dite, le début de la colonisation va se faire très lentement, mais d'abord elle va se faire par la fondation du port de Sébastopol, c'est-à-dire un port militaire. Donc on n'est pas dans une logique au départ immédiatement de colonisation humaine, on est d'abord dans un enjeu stratégique, et puis effectivement la colonisation va débuter. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'elle commence de manière tragique, parce que des dizaines de milliers de Tatars vont être expulsés de cette région, envoyés pour ceux qui parviennent à partir vers l'Empire ottoman, mais beaucoup vont être massacrés ou déportés.
Les malheureux, c'est toute leur histoire, puisque Staline encore, absolument, plus récemment, les chassera de la Crimée.
Recommencera en 1944 à déporter les Tatars de Crimée. Et Catherine donc va encourager un début de colonisation pour faire de la Crimée une colonie de peuplement slave, avec Russes et Ukrainiens à part égale, qui s'ajoute aux Grecs, aux Arméniens, aux Juifs qui étaient déjà présents. Et en même temps, on a un début de colonisation des steppes conquises aux dépens de l'Empire ottoman et qui correspondent aujourd'hui au sud de l'Ukraine, dont on parle évidemment énormément aujourd'hui.
Le souhait d'en faire un jardin, un lieu de haute civilisation, en faisant venir d'ailleurs des spécialistes de pays d'Europe. C'est ainsi que je vois que c'est un Flamand, monsieur de Hollande, qui vient dessiner les plans de Odessa, par exemple.
Oui, et on a Odessa va connaître un essor très important sous la houlette du duc de Richelieu, qui joue un rôle clé comme administrateur de cette région. Et le duc de Richelieu sera ensuite suivi par le comte de Langeron, donc deux Français émigrés qui refusent la Révolution française et qui sont entrés au service d'abord de l'armée russe, puis ensuite de l'administration, lorsqu'Alexandre Ier fait ce choix très judicieux d'appeler le duc de Richelieu, qui sera un grand administrateur de cette région.
Alors il faut avancer maintenant et voir comment la guerre va éclater. Quelles sont les origines de cette guerre de Crimée dont nous parlons ce matin ?
J'ai mentionné que les Russes avaient donc cherché à avancer aussi hein, dans cette région en revendiquant des droits spécifiques sur la mer Noire pour contrôler les détroits. Et cela, évidemment, va de nouveau se retrouver sous le règne de Nicolas Premier, règne qui débute en 1825, où le tsar va poursuivre la stratégie très habile de Catherine II, à savoir nouer des relations bilatérales à chaque fois qu'il y a un conflit russo-ottoman qui se termine par une victoire russe. Donc on aura plusieurs traités qui vont ainsi jouer à l'avantage de la Russie, jusqu'à ce que les Français et les Anglais commencent à trouver que cette politique expansionniste russe se fait de manière déloyale, pourrait-on dire, et qu'il faut en fait commencer à y mettre un terme.
Donc le jeu à deux cesse pour un jeu plus complexe avec l'arrivée des puissances occidentales.
Oui, l'idée étant qu'en 1815, le Congrès de Vienne a fait le choix d'une gestion multilatérale des crises.
Le concert des nations.
Le concert des nations, le fameux concert des nations sur lequel finalement la paix a reposé. Mais avec ce choix d'une relation bilatérale privilégiée, soit par la menace, soit par la menace de la force, soit par la séduction, pourrait-on dire, eh bien, la relation russo-ottomane contrevient à ce concert européen, et c'est ce qui va expliquer que les Anglais, et surtout les Français au départ, considèrent qu'il faut y mettre un terme. Les Anglais se sentent menacés dans l'avancée vers les Indes, les Français considèrent qu'ils ont des droits sur cette région aussi, par le biais de la gestion des lieux saints, et on arrive en fait à ce qui va être le détonateur de la guerre, mais qui est en fait quelque chose de très important, à savoir une rivalité franco-russe sur la possession, pourrait-on dire, des lieux saints.
Qui va être le protecteur, en somme, des lieux saints, ou est-ce que ce sera au profit des orthodoxes ou des catholiques?
Alors, c'est la vraie question, puisque la France est protectrice des lieux saints depuis le milieu du XVIe siècle, et cela a été ensuite reconfirmé en 1740. Mais il faut savoir aussi que depuis le début du XIXe siècle, le clergé orthodoxe russe est présent, de plus en plus présent, en Palestine. Mentionnons quand même, et c'est à son honneur tout de même, que le clergé orthodoxe a œuvré à la restauration du Saint-Sépulcre, sépulcre en 1808 et ensuite en 1842 à la restauration de l'église de la Nativité, et qu'on a de plus en plus de pèlerins russes. Et donc, on a un contraste entre la France qui se prétend protectrice des lieux saints, mais qui finalement ne fait pas grand-chose pour les conserver en l'état, et le clergé orthodoxe russe qui est très présent. Ce qui explique que le tsar considère que là aussi, il a un droit de regard, et que sur la base du traité de Kuchuk-Einarji conclu par Catherine II, il a le droit, il a un certain droit, lui aussi, à revendiquer la présence russe dans les lieux saints.
Alors comment est-ce que toutes ces forces peuvent aboutir finalement, dans le plus court terme, à cette guerre de Crimée que nous considérons ce matin?
Alors, en 1852, Napoléon III obtient de l'Empire ottoman la restitution aux catholiques des clés de l'église qui lui avaient été confisquées sous la pression du tsar.
Il vient de faire son coup d'État, il souhaite augmenter son prestige à l'extérieur.
Et lui, effectivement, veut à la fois rehausser son prestige et puis plaire aux catholiques qui correspondent en fait à une force qui le soutient. Et dans le même temps, les Anglais, eux, veulent préserver la liberté d'action en direction des Indes.
Et c'est comme ça qu'on va voir côte à côte, pour la première fois depuis Aliénor d'Aquitaine et Henri Plantagenet, depuis 7 siècles, on va voir les Anglais et les Français combattre côte à côte.
Oui, et ce qui est intéressant tout de même, c'est que avant que la détonation se produise, si l'on peut dire, les Russes ont cherché à se rapprocher des Anglais. Et ils ont proposé, en janvier-février 53, aux Anglais une sorte de partage de l'Empire ottoman. Et les Anglais vont refuser. Et ça, c'est un élément très intéressant sur le plan géopolitique, parce que effectivement, pour la première fois depuis longtemps, on va avoir une alliance, pourrait-on dire, franco-anglaise, alors que les Russes pariaient sur un rapprochement anglo-russe. Ce rapprochement franco-anglais va devenir une alliance militaire. Cette alliance va devenir effective suite à tout un enchaînement de circonstances, et en particulier lorsqu'en février 53, les Russes envoient un émissaire qui s'appelle le prince Menchikov pour obtenir un renforcement de ce protectorat. Les Ottomans disent non, et c'est ce qui va développer les prémices du conflit. Donc, les Français et les Anglais entrent en guerre suite au désastre que l'Empire ottoman a connu avec la destruction de sa flotte à Sinope en novembre 53.
Donc, on ne peut pas l'abandonner à son sort en face des Russes.
C'est cela. Et c'est ce qui va expliquer la mobilisation et le début des opérations sur plusieurs fronts, puis ensuite en Crimée.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Alors il faut que maintenant, Marie-Pierre Rey, à partir de l'analyse si claire de ces origines de la guerre, que vous nous en décriviez les étapes. Qu'est-ce qui s'est passé en termes militaires, et après nous en verrons toutes les conséquences sanitaires, culturelles et autres.
Il faut d'abord savoir qu'on parle toujours de guerre de Crimée, mais qu'en réalité, cette guerre s'est jouée sur plusieurs théâtres d'opérations. Elle est loin de s'être limitée à la Crimée. On aura des opérations militaires d'abord en Moldavie-Valachie, qui étaient les principautés danubiennes occupées par les Russes, des opérations sur les côtes ukrainiennes avec le bombardement d'Odessa en avril 1854, des opérations en mer Baltique avec la prise de Bormasund en août 54, dans les Balkans, au Caucase, dans le delta du Danube, jusqu'au Pacifique et en mer Blanche. Donc c'est dire à quel point le théâtre a été vaste.
Mais la Crimée.
Voilà. Mais
qu'est-ce qui s'y passe ?
Tout va en réalité se cristalliser en Crimée lorsque les Alliés décident de déplacer justement les opérations vers la Crimée pour en finir avec Sébastopol, qui est la seule base navale militaire russe en mer Noire. Et cette opération, donc, va constituer une prouesse technique et logistique très importante, puisqu'il va falloir débarquer des troupes arrivées de France, de Grande-Bretagne. Alors en France, on va les acheminer d'abord par chemin de fer jusqu'à Marseille, puis ensuite par ces fameux bateaux. En Crimée, on a donc un débarquement d'un corps expéditionnaire franco-britannique qui est important du point de vue des effectifs, 310 000 Français, 100 000 Britanniques, c'est dire à quel point les effectifs sont lourds. Et face à cette armée franco-britannique, l'Empire russe, rien qu'en Crimée, présentera 350 000 hommes. Donc vous voyez qu'on a des effectifs lourds et l'Empire ottoman de son côté plus de 200 000 et les Sardes qui viendront plus tard, à partir de janvier 1855, 20 000 hommes également.
Avec l'idée de servir éventuellement l'unité italienne ultérieure. Ce à quoi on est sensible quand on regarde ces opérations militaires, c'est le contraste entre certains aspects presque un peu désuets de la manière de se battre et au contraire d'une modernité qui fait de cette guerre avant la guerre de sécession presque une guerre industrielle moderne. Est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, on a des éléments de grande modernité avec ces fameux bateaux cuirassés pour certains déjà. Et on a également l'usage du télégraphe pour la première fois dans l'histoire militaire avec une amélioration des communications. On a également une triste modernité par un perfectionnement des armes avec ces fameux fusils à canon rayé qui vont faire des blessures vraiment l'étale très forte.
Et en même temps, il y a la tradition de charger, par exemple, la charge de la brigade légère, qui a été célébrée par le poète Tennyson, est au fond, se rattache à des pratiques anciennes.
Absolument, charge de cavalerie.
Qu'est-ce qui se passe?
Et également des corps à corps, à coups de baïonnette. La prise de Malakoff, à la fin, c'est ça. Ce sont des corps à corps très brutaux. Et on a effectivement, même sur le plan militaire, un mélange de très grande modernité et puis de tradition qui rappelle les guerres napoléoniennes. Et cela aussi, c'est important. Cette guerre de Crimée est tout en contraste, en réalité, et en paradoxe. Au départ, on a un certain nombre d'opérations militaires qui débutent en Moldavie-Valachie. Puis ensuite, on va avoir le point central, le point nodal, qui sera le débarquement en Crimée. Les Alliés débarquent en Crimée près de Patoria, dans le but au départ de détruire Sébastopol, qui est donc cette fameuse base navale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont débarquer avec Moussa Djiraï, qui est un ancien tatar, et donc on revient à l'origine tatar de la Crimée. Et dans le sillage de la présence de cet homme, un certain nombre de tatars vont aider les alliés en fournissant des renseignements en matière d'espionnage, en servant de guide aussi. Mais en retour, ils seront victimes des violences cosaques, ce qui va ajouter encore un élément tragique, beaucoup de tatars civils vont être victimes de cette violence.
Dans l'histoire, c'est un long martyrologe, l'histoire des tatars.
Absolument. Alors, débarqués à Eupatoria, donc, les troupes vont se diriger vers Sébastopol, et la première grande bataille, c'est la bataille de l'Alma, 20 septembre 1854, qui est une victoire alliée, coûteuse, mais où vont s'illustrer les zouaves de la division Bosquet.
L'Alma, c'est un fleuve?
Oui. Les troupes alliées vont se heurter à l'armée russe à la bataille de l'Alma le 20 septembre 1854 sur le fleuve Alma. Et c'est une victoire alliée, mais très coûteuse en vies humaines, puisque on aura quand même la mort de 2000 Britanniques, de 1300 Français, mais de près de 6000 Russes. Donc c'est vous dire l'ampleur des pertes à chaque fois. Et c'est une ouverture vers Sébastopol, dont le siège commence en octobre 1854, avec le début des premières tranchées alliées qui va durer 11 mois, jusqu'à ce que le général français MacMahon, avec ses zouaves encore, s'empare de la redoute de Malakoff.
C'est là qu'il a eu le fameux mot « j'y suis, j'y reste ».
Oui, parce que cette prise avait été tellement difficile. C'était la deuxième tentative en juin 55, une première tentative très coûteuse en vie humaine, là aussi avait échoué, d'où la deuxième tentative en septembre.
Ça fondera d'ailleurs la notoriété de MacMahon et le conduira à la présidence de la République dans les années 70 après la défaite contre la Prusse.
Oui, parce qu'il s'est montré extrêmement valeureux et courageux à Malakoff. Alors, pendant, si je puis dire, que le siège se déroule, on aura un certain nombre d'opérations. Vous avez déjà mentionné la triste charge de la brigade légère. Cette opération, en fait, folle, illogique, et qui sera célébrée comme un acte d'héroïsme...
Magnifique et absurde.
Voilà, magnifique et absurde, s'inscrit dans cette fameuse victoire remportée par les Britanniques à Balaclava, qui est un des hauts lieux de la mémoire britannique, bien sûr. Mais pour autant, ce n'est pas une victoire décisive. Et c'est tout le problème de ces batailles successives, c'est qu'elles ne sont jamais décisives. Puis on aura la bataille d'Inkermann, très importante pour l'entente franco-britannique, parce que les Anglais y étaient en difficulté et ils ont été secourus par les Français. Elle se situe le 5 novembre. Et c'est le début de cette entente cordiale sur le terrain, car l'entente militaire n'a pas toujours été facile entre les Français et les Anglais, mais à Inkermann, elle se scelle dans le sang, et ça c'est quelque chose d'important.
On dépasse le souvenir de Waterloo, en somme, Marie-Pierre Ray.
Absolument, et c'est pour cela que c'est un acte fondateur dans la mémoire collective.
Il y a une visite à ce moment-là, dans ce même moment, de la reine Victoria en France, d'où l'avenue Victoria qui existe encore.
Voilà, on est là en pleine réconciliation, pourrait-on dire, franco-britannique. Et puis on aura aussi la bataille de Pretoria en février 55, qui voit le succès des troupes ottomanes, et mentionnant tout de même, parce que c'est celle où les Sardes vont s'illustrer, la bataille de la Tchernaïa en août 55. Alors, un ensemble de batailles, mais qui finalement n'aboutissent à rien de déterminant, d'où finalement l'apothéose, mais qui sera le moment le culminant, mais le plus dur aussi, qu'est cette prise de Malakoff, qui était un ouvrage fortifié extraordinairement difficile à prendre, et qui va se terminer par le succès définitif des Zouaves de MacMahon, pourrait-on dire.
Ce qui aboutit au traité de Paris, qu'il faut, Marie-Pierre Ray, résumer, c'est ce qui met fin à la guerre de Crimée.
Oui, alors le traité de Paris est très important parce que ce fameux traité de Paris conclut le 30 mars 1856 au Quai d'Orsay. Et donc c'est un triomphe évidemment pour la diplomatie française sur le plan symbolique puisque ça se joue à Paris. Et Napoléon III efface en quelque sorte Waterloo et toute la fin sombre de Napoléon Ier. Et il marque donc ce traité de Paris, le retour de la diplomatie française sur le devant de la scène, le recul de la Russie et le retour à une gestion internationale des crises. Et ça, c'est très important. On en a fini avec cette relation privilégiée.
Liberté de la circulation, évidemment, dans les détroits.
Oui. Alors, les Russes sont écartés des détroits, ce qui va rassurer les Britanniques. Il n'y aura plus d'arsenaux et de places fortes militaires dans les détroits. L'intégrité de l'Empire ottoman est également garantie par les signataires de l'accord. Donc on a un regard multilatéral sur l'avenir de l'Empire ottoman et non plus bilatéral. Les Russes ne peuvent plus prétendre avoir des droits spécifiques sur les chrétiens orthodoxes. Et on a également la reconnaissance donc de l'autonomie des provinces danubiennes. Et puis aussi l'internationalisation du Danube et... Il faut noter quand même une certaine modération malgré tout, puisque les Anglais voulaient aller plus loin. Ils auraient voulu rendre la Crimée à l'Empire ottoman et une partie du Caucase, mais cela n'aboutira pas. Les Français et les Autrichiens plaidant pour un peu plus de modération vis-à-vis des Russes.
Je ne sais pas si Poutine sait que il y a eu un risque que la Crimée devint ottomane.
Sans doute pas, sans doute pas. Il est important aussi de dire que la question de l'unité italienne sera également abordée au congrès de Paris suite à l'engagement des troupes sardes dans le conflit.
Il y a dans ces conséquences de cette guerre un isolement clair de la Russie et pourtant... Peu de temps après, en somme, on va trouver l'alliance franco-russe.
Oui, la Russie, en fait, est isolée. Elle se retrouve isolée, d'autant plus qu'elle n'a pas été soutenue dans la guerre par ses alliés traditionnels, qui étaient l'Autriche et la Prusse. Et ce sentiment de trahison va être un élément non négligeable de son revirement, de sa révolution copernicienne, que sera, si je puis dire, l'alliance franco-russe des années 1890.
D'où le pont Alexandre III.
Absolument.
Je voudrais maintenant, Marie-Pierre Ray, que nous considérions de plus près la façon dont cette guerre s'est développée, en particulier ses relations avec l'opinion publique. C'est un moment essentiel. Il y a le cas en particulier des conflits entre le commandement britannique et les correspondants de guerre, notamment le fameux Russell, correspondant du Times, qui est le premier à rendre compte, longtemps avant l'Albert Londres de 1914, à rendre compte de la guerre dans sa cruauté, dans sa réalité, à la grande fureur d'ailleurs des chefs militaires. Écoutez donc cette évocation radiophonique de Maurice Kerroul, qui remonte à juin 1966 sur France Inter, et qui évoque le rôle de ce Russell, qui intervient à un moment où précisément la presse est en train de gagner en Angleterre vraiment une liberté à peu près complète. On supprime le droit de timbre, la censure est tout à fait disparue. Écoutons.
Entrez. Bonjour, général.
Bonjour, monsieur. Monsieur William Howard Russell, je vous l'ai dit, quand vous avez débarqué à Scutari, j'aurais préféré voir le diable.
Tiens, tiens.
Aujourd'hui, je dois constater que mes craintes n'étaient que trop justifiées. Les articles que vous adressez au Times, cette agressive feuille radicale...
La seule qui ne publie pas que des bulletins de victoire.
Ces articles, dis-je, peuvent jeter le trouble dans les esprits.
Mais j'y compte bien.
Et avoir les conséquences les plus graves. Monsieur William Howard Russell, je pourrais vous donner l'ordre de regagner vos foyers. Je ne veux pas en venir là. Je vous invite cependant à plus de modération. Votre qualité de correspondant de guerre ne vous donne pas tous les droits.
Général, je n'en réclame qu'un. Celui de dire la vérité.
Mais la vérité...
Serait-il faux, par hasard, que sur de sinistres rafiaux baptisés navires-hôpitaux, et tout juste bon à transporter 200 hommes, on ait entassé plus de 1500 malades et blessés, abandonnés à eux-mêmes et privés des soins les plus élémentaires?
Enfin...
Serait-il faux que dans cette caserne de Scutari, que vous ont généreusement abandonné les Turcs, et que l'on a transformé en hôpital, il n'y ait ni chaise, ni table, ni table d'opération, que des blessés demi-nus couchent à même des planchers crasseux et souillés de sang, qu'on y manque de médecins, de chirurgiens, d'infirmières? Serait-il faux que nos soldats meurent de faim parce que de stupides complications administratives empêchent de débloquer des stocks de victuailles qui nourrissent les rats ou pourrissent dans les magasins? Je n'ai dit que cela, général.
Cela sonne juste pour vous, Marie-Pierre Rey, dialogue imaginaire?
Oui, absolument. Parce que, de fait, Russell, en tant que correspondant de guerre, va jouer un rôle extrêmement important dans la sensibilisation des opinions publiques à la tragédie que vivent ces hommes embarqués dans des conditions difficiles et soumis à des épidémies, entassés sur des bateaux qui sont finissent par être des bateaux mouroirs. Et il a été un des premiers à dénoncer tout cela avec beaucoup de conviction dans ses articles du Times.
Un des généraux lui dit « Si les soldats furieux vous lynchaient, je ne serais pas surpris ».
Oui, mais en réalité, il va jouer un rôle très important parce que cette prise de conscience permettra aussi une amélioration des déficiences du service des santé. Donc les soldats, en tout cas ceux qui seront rescapés, lui devront beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est aussi de souligner, au-delà de Russell, que pour la première fois, cette guerre de Crimée fait l'objet de relations dans la presse et d'une mobilisation des opinions publiques. Plus d'abord en Angleterre, en Grande-Bretagne qu'en France, parce que la presse y est plus libre, beaucoup plus libre qu'en France au même moment.
Oui, on est dans les années très très dures du Second Empire.
Avec une censure, voilà, très forte, qui fait qu'on n'a pas la liberté de ton des articles du Times. Mais l'information va quand même circuler. Et c'est extrêmement important de souligner ce rôle nouveau de la presse comme témoignage des atrocités de guerre et des déficiences et des dysfonctionnements, en l'occurrence, auxquels l'armée est confrontée.
C'est un des éléments qui permet de dire décidément que cette guerre est une des premières guerres contemporaines, comme vous le montrez dans un livre à part que je citerai tout à l'heure.
Voilà, le terme contemporain est utilisé à dessein pour montrer une nouvelle fois cette triste modernité du conflit, parce que effectivement, en termes d'opinion publique, en termes d'émotion internationale, d'émotion populaire, la guerre joue un grand rôle. Elle fait aussi l'objet d'une mobilisation à la fois pour la guerre, hein, des comités vont se mettre en place, ces comités de soutien, mais également des réactions qu'on pourrait qualifier de pacifistes. Victor Hugo rédigera un pamphlet violemment pacifiste contre la guerre de Crimée. Donc on voit tout un spectre d'émotions qui se joue au moment de la guerre des Crimées. Et ça aussi, c'est une forme de modernité. Et on aura aussi une des premières ONG, si l'on peut dire, avec le comité d'aide aux soldats blessés. Voilà, de Demidov. Donc on voit là aussi des germes qui préfigurent finalement la Première Guerre mondiale, également aussi avec le rôle des tranchées qui sont installées en Crimée, et aussi des actes de fraternisation qu'on aura, comme pour la Première Guerre mondiale, avec cette lassitude, cette fatigue, cette souffrance qui fait que les ennemis qui sont si proches, finalement, fraterniseront par moments.
Cela conduit, Marie-Pierre Rey, à la question, une grande question sanitaire. Autrement dit, la manière dont on a soigné les soldats ou on ne les a pas soignés. Il faut savoir que beaucoup plus sont morts de maladies contagieuses que des effets meurtriers de la guerre elle-même. Et c'est ici qu'apparaît la personnalité centrale, lumineuse, de Florence Nightingale, qui est une figure iconique encore aujourd'hui en Grande-Bretagne, peut-être plus qu'en France, et qu'il faut mettre en lumière, car elle a joué un rôle essentiel. La première très grande infirmière de l'histoire de ces guerres, qui est restée aujourd'hui vraiment très très célèbre, iconique en Grande-Bretagne.
C'est une femme, elle est d'un milieu aisé, et à l'époque, une femme sur le front, au contact, pourrait-on dire, de la mort et de la maladie, ça, ce n'est pas convenable pour la haute société britannique.
Donc c'est une modernité, cette histoire, par rapport, sous le regard d'aujourd'hui.
Là aussi, oui, c'est une pionnière. Et elle a suivi sa carrière d'infirmière, elle s'est formée en Allemagne, parce qu'à l'époque, il n'y a pas moyen de se former à ce métier en Grande-Bretagne.
C'est dire.
Voilà, mais elle a beaucoup de caractère, elle est très soutenue par sa famille, et elle va devenir surintendante d'un dispensaire à Londres. Et elle est choquée par les révélations de la presse, et donc on revient au rôle de Russell, et elle décide à ce moment-là de partir et d'embarquer pour Scutari avec un groupe de 38 femmes, 38 infirmières qu'elle a formées elle-même. Scutari, en fait, c'est la base britannique où va être installé un hôpital de campagne, et c'est tout près d'Istanbul. Et c'est un lieu mis à la disposition des Anglais par l'Empire ottoman.
Elle va trouver le poids terrible de la bureaucratie.
Oui, et surtout des dysfonctionnements, et elle se rend compte de ce qui ne va pas. Et on va lui donner le surnom d'ailleurs de la dame à la lampe, c'est-à-dire que c'est à la fois une administratrice, une femme qui observe, mais également une femme de terrain qui a beaucoup de compassion pour les blessés et les malades. Elle se rendra compte sur le terrain que les hommes finalement meurent plus de contagion que de leurs blessures proprement dites. Et ça, c'est une chose fondamentale, parce que cette guerre de Crimée a fait des dégâts, a causé des pertes énormes par la contagion. Les hommes sont victimes d'épidémies de choléra, de typhus, de dysenterie, donc parce qu'ils sont entassés sur les bateaux et ensuite entassés dans les hôpitaux. L'eau souillée, évidemment, propage le choléra à une vitesse vertigineuse.
On a peine à convaincre qu'il faut la bouillir.
Voilà, on en est au début, mais ce n'est pas systématique, surtout dans l'armée française, il faut bien le dire. Et à tout cela va s'ajouter encore le scorbut, qui touche beaucoup plus les marins français que les marins britanniques, qui ont déjà pris l'habitude de boire du jus de citron, dont on sait qu'il est riche en vitamine C et qu'il permet de lutter contre le scorbut.
En arrivant, Florence Nightingale demande beaucoup de jus de citron. Ce que, naturellement, l'intendance lui refuse pour des raisons bureaucratiques.
Et parce qu'on est un petit peu dans des difficultés d'approvisionnement en permanence. Mais de retour ensuite à Londres, elle va tirer parti de tout cela. Et ce qui est intéressant, c'est que cette femme qui au départ a une formation de mathématicienne va travailler sur des statistiques pour convaincre que effectivement la majorité des décès ne sont pas dus aux blessures, mais bien aux infections contractées à l'hôpital ou au manque d'hygiène en réalité, pour dire les choses très simplement.
Là, la modernité est éclatante.
Voilà. Et elle aura à ce moment-là un écho, ce qui expliquera les améliorations des services de santé pendant la Première Guerre mondiale. Donc les effets se feront sentir de manière très 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 nette. Alors, il faut quand même mentionner aussi en termes de modernité de la médecine quand même de l'époque, qu'on utilise pour la première fois l'anesthésie par l'éther. On va pouvoir anesthésier lors des amputations, donc ça c'est un progrès important.
Il y a un personnage dont le nom est impressionnant, mais qui joue un rôle positif, c'est un médecin français qui s'appelle Claude Morgue. Vous ne saviez pas ?
Non.
Ah bah j'ai découvert ça, donc ça qui s'appelle Claude Morgue, bien nommé, mais,
oui.
Mais je passe.
Les Français vont beaucoup pratiquer les amputations sous éther, 25 000 amputations en 1855, alors que les Anglais sont plus réservés encore à utiliser l'éther. Ils ont peur en fait qu'un mauvais usage de l'éther aboutisse à tuer le blessé. Les Russes, avec Pirogov, qui est un grand chirurgien, vont eux aussi utiliser l'éther. Donc on est dans des progrès très nets de la médecine d'urgence, de la médecine de guerre, mais ce qui ne suit pas en réalité, c'est la gestion des épidémies. Et c'est ça, ce décalage, en fait, qui est caractéristique, là encore, de cette guerre de Crimée.
Le 19e siècle est encore le siècle du choléra, qui survient en France en 1831 et à nouveau dans les années 1880.
Oui.
Là, le choléra qui arrive, chantait Aristide Bruand.
Oui, et là, il est très présent dans la mémoire du 19e siècle. Et notons aussi que ces épidémies vont toucher le haut commandement, puisque...
Deux morts. Dont un ancien de Waterloo.
Voilà.
C'est-à-dire
Lord Raglan, qui meurt de dysenterie devant Sébastopol en juin 1855. Et puis le maréchal de Saint-Arnaud, qui meurt du choléra, et qui est donc à ce moment-là remplacé par Canrobert.
Je voudrais maintenant, Marie-Pierre Rey, que dans le cours de cette évocation de la guerre de Crimée, et autrement dit aussi de cette mer Noire, qui joue aujourd'hui à nouveau un rôle si important dans la géopolitique, que nous parlions de la trace que cette guerre a laissée. Dans le cas de la France, on est frappé paradoxalement par l'opposition entre le fait qu'il y a notamment à Paris toute une série de lieux et de statuaires qui évoquent la guerre et un oubli assez large, beaucoup plus qu'en Angleterre, de ce qui s'est passé. Je ne suis pas sûr que si on faisait un micro-trottoir, la majorité des passants pourraient rappeler ce que c'est que l'Alma, ce que c'est que le Zouave du Pont, ce que c'est que Malakoff, qui apparaît un peu plus tard, ou cette statue qui est aujourd'hui au Puy-en-Velay, par exemple, et qui évoque la guerre de Crimée. Beaucoup de traces, beaucoup de signes. L'avenue Victoria, dont nous parlions tout à l'heure indirectement, oui. Et puis peu de mémoire.
Alors c'est vrai que la toponymie parisienne et également française hein, a célébré la guerre de Crimée, les victoires, Malakoff, Alma, Sébastopol.
Le boulevard Sébastopol,
tous ces hauts lieux qui sont entrés dans la mémoire collective, mais qui finalement n'ont pas perduré. Effectivement, on a quand même un peu oublié ce qu'était cette guerre de Crimée, d'où l'intérêt de certaines publications récentes, comme le dossier récemment paru dans la revue L'Histoire.
Je suis content que vous lui rendiez hommage. C'est un numéro de février dernier qui doit être encore tout à fait disponible. 36 pages consacrées à la guerre de Crimée avec votre collaboration, celle aussi de Macha Serovic,
voilà.
Très précieuse, celle de Claire Fredge qui parle de la santé et votre propre contribution sur les vagues de la mémoire russe, car on s'aperçoit en vous lisant que cette mémoire a été très différente évidemment de celle qui a pu être nourrie en Grande-Bretagne et éventuellement en France.
Oui, pour ce qui est de la France, j'ai déjà mentionné hein, qu'on avait eu un oubli, sans doute parce que le Second Empire a laissé ensuite l'image désastreuse de la guerre de 70. C'est comme si cette image s'était finalement surimposée sur celle de la guerre de Crimée en la condamnant un petit peu à l'oubli.
Plus la guerre du Mexique.
Voilà.
Cette chanson que je vais vous faire entendre fait presque exception. Elle est consacrée aux zouzous, aux zouaves du pont de l'Alma, le zouave de ma grand-mère, Jeanne Aubert, en 1939.
En 1860, ma grand-mère épousa un zouave d'allure fringante, retour de Magenta. Sa moustache trop blonde, sa barbe de sapeur, faisait vers ce vainqueur voltiger tous les cœurs. Si le zouave de ma grand-mère est venu mon grand-papa, c'est que tous deux sympathisèrent, car grand-père était beau gars. Quand grand-maman le vit, son petit cœur frémit, mais ce qui la charma, ce qui fit qu'elle aima, ce ne fut pas sa culotte bouffante, ce ne fut pas ses brisques sur le bras, ce ne fut pas sa barbe frisonnante, mais ce fut le pompon de sa chéchia. Grand-papa de service au camp de Mourmelon fit sur l'impératrice une très grosse impression. Par un charmant caprice, l'empereur elle exigea qu'on sculpta grand-papa, c'est le zouave du pont de l'Alma. Si le zouave de ma grand-mère est venu mon grand-papa, c'est que tous deux sympathisèrent, car grand-père était beau gars. Quand grand-maman le vit, son petit cœur frémit, mais ce qui la charma, ce qui fit qu'elle aima, ce ne fut pas sa culotte bouffante, ce ne fut pas ses brisques sur le bras, ce ne fut pas sa barbe frisonnante, mais ce fut le pompon de sa chichia.
Magenta, c'est une légère erreur historique, il s'agit de la bataille de la guerre d'Italie. Mais en dehors de cela, vous le retrouvez, votre zouave, Marie-Pierre Rey ?
Oui, j'aime beaucoup cette chanson qui aligne tout vraiment les stéréotypes de la guerre de Crimée, mais qui en même temps lui rend hommage, puisqu'on voit défiler tous les noms, mais surtout on voit la figure du zouave. Alors les zouaves, l'armée d'Afrique.
Ce sont des Kabyles.
Alors oui, les zouaves sont des Kabyles qui sont dirigés par des sous-officiers et officiers français, mais qui jouent donc un rôle fondamental dans cette guerre de Crimée et qui vont s'illustrer en particulier particulier dans la prise de la tour de Malakoff, l'ouvrage fortifié dont on a déjà beaucoup parlé. Il faut savoir que 3 des 7 régiments qui participent à la prise de la tour sont des régiments de zouaves. Et MacMahon donc va conduire des zouaves dans cette fameuse charge, d'où ce mythe du zouave avec sa culotte bouffante. Et il y a aussi tout l'exotisme que l'on repère dans suite à la conquête de l'Algérie, et qui est cet imaginaire qui commence avec le Second Empire et qui va s'affirmer de plus en plus dans les années qui suivent, avec dans cette chanson qu'on retrouve les brises, la culotte bouffante, la chéchia, tout un ensemble d'images qui font, pourrait-on dire, le zouave, et qu'on va retrouver dans le zouave du pont de l'Alma, qui est une statue de Georges Diebold, construite en 1856, donc très récemment, après le conflit. C'est de nouveau un hommage aux combattants courageux qui prennent Sébastopol.
La chanson était de Jacques Bataille-Henri pour les paroles et Henri Verdun pour la musique. Il faut que nous parlions maintenant de la mémoire en Angleterre et en Russie. En Angleterre, elle est plus forte qu'en France.
Oui, alors en Angleterre, elle est restée plus forte, à la fois parce qu'il y a les épisodes tragiques comme la charge de la cavalerie légère qui ont fait l'objet d'un poème, mais également...
Tennyson.
Voilà, le poème de Tennyson et un film très célèbre. Et donc, c'est quelque chose qui est présent dans la mémoire collective comme un souvenir traumatique, mais très présent. Et puis, il y a aussi cette mémoire glorieuse qui s'inscrit dans le Crimean War Memorial à Londres, situé place Waterloo, où on a à la fois un groupe central de statues en bronze représentant 3 gardes au pied du piédestal, une figure allégorique féminine qui représente l'honneur, et puis de part et d'autre les statues de Sidney Herbert et de Florence Nightingale, qui montrent aussi que les civils et les combattants ont été unis dans cette guerre de Crimée.
Je voudrais Marie-Pierre, que nous terminions notre conversation en évoquant ce que vous appelez les vagues de la mémoire en Russie, ce qui naturellement nous conduit de plus près encore à l'actualité, à ce que le régime de Poutine peut charger d'illusions sur cette guerre de Crimée.
Oui, la mémoire de la guerre de Crimée a été beaucoup plus forte, évidemment, en Russie que dans les autres pays, parce que c'est une guerre perdue. Et c'est une mémoire donc traumatique, sacrificielle, qui va célébrer très tôt les grandes figures emblématiques du conflit, comme ceux qui ont perdu la vie, comme l'amiral Nakhimov, mais également Piragov, le grand chirurgien que j'ai déjà mentionné.
Tolstoï joue un rôle.
Et évidemment, Tolstoï, dans les récits de Sébastopol, qui vont encore ancrer le souvenir de cette guerre glorieuse, même si elle a été perdue. Alors, ce qui est intéressant chez Tolstoï, c'est qu'il est présent, il sert, il est sur le terrain.
Jeune homme encore.
Oui, il est très jeune, il a 26 ans, et il est sous le feu de l'artillerie alliée, et il écrit 3 nouvelles largement autobiographiques. Et ce qui est important, c'est que il ne cache pas l'horreur de la guerre. On voit déjà poindre le futur Tolstoï pacifiste, qu'il deviendra plus tard, de guerre et paix. Et en même temps, il exalte le courage du peuple russe, sa force morale, son attachement à la patrie. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment très important, parce qu'on est là dans une évocation incarnée, présente.
Alors ensuite, il y a une lecture naturellement marxiste, avec historien majeur qui était Tarlé, après 1917. Naturellement, le regard change sous le régime soviétique, un regard qui se veut marxiste-léniniste, qui du coup privilégie la lutte coloniale des puissances aux dépens des motifs religieux de la guerre.
Oui, on ne dit plus rien des motifs religieux. La lecture officielle est une sorte de conflit entre les impérialistes et les coloniaux pour le contrôle économique de l'Empire ottoman. Et on a une lecture, je dirais, très classique dans son analyse. Mais ce qui est important quand même à noter, c'est que Tarlé, qui est le grand historien soviétique de la période, va, outre une biographie de l'amiral Nakhimov, qui est intéressant parce que c'est un des rares qui soit d'origine populaire. Il est, contrairement aux autres, contrairement à Menchikov qui est aristocrate, Nakhimov est un homme du peuple, d'où ce héros irréprochable. Et on aura également donc un ouvrage consacré au siège de Sébastopol, où là encore Tarlé renoue avec la dimension héroïque et sacrificielle.
Qu'est-ce que pense le régime de Poutine ? Nous allons clore avec cette interrogation qui peut-être va demeurer ouverte. Qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui en Russie de la guerre de Crimée, à part les événements que nous savons?
Alors c'est un moment très important qui est aujourd'hui instrumentalisé par le pouvoir de Vladimir Poutine. L'annexion des 2014 s'est jouée sur cette symbolique ancienne, sur le fait que l'argument était de dire la Crimée est nôtre, la Crimée est à nous, en référence au sang versé pendant la guerre de Crimée.
Il faut rappeler que c'était Khrushchev en 1954 qui avait attribué la Crimée à l'Ukraine, sans savoir qu'un jour l'Ukraine serait séparée de la Russie.
En 1954, il s'agit d'une décision de type administrative, politique, qui a pour objet de faciliter le redéveloppement d'une région qui a été dévastée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, mais pour Khrouchtchev, ça n'a rien d'une scission ou d'un rattachement autre que administratif et économique, parce que par commodité, c'était plus logique.
Le fameux pont à cet égard créé par Poutine entre le continent et la Crimée est symptomatique, est métaphorique quasiment.
Oui, absolument, de sa volonté de rattachement, et il a parlé de retour, sans évidemment mentionner tout l'historique beaucoup plus compliqué, beaucoup plus riche.
Que vous venez de restituer, Marie Pierret.
Nous avons tenté de restituer ensemble.
Alors aujourd'hui, donc pour Poutine, la guerre de Crimée est encore présente ?
Bien sûr, et elle est revenue sur le terrain en 2022. C'est un élément très important et qui sera évidemment un élément à prendre en compte si des négociations de paix sérieuses s'engagent. Mais je doute que, compte tenu de l'importance de cette guerre de Crimée, du souvenir de la fondation de Sébastopol, etc., les Russes renoncent à la Crimée.
Merci beaucoup, Marie-Pierre, merci beaucoup pour cet éclairage. Vous allez faire paraître très prochainement dans les classiques Garnier, en collaboration avec Éric Anceau et Jean-François Figeac, un livre qui s'intitulera « La guerre de Crimée, première guerre contemporaine ». Nous sommes dans la concordance des temps.
Absolument. Et ce livre est le fruit d'une coopération entre beaucoup d'historiens de tout pays. Et en cela aussi, c'est une approche intéressante, plus riche, qui permet de multiplier les points de vue sur un moment finalement trop oublié de notre histoire contemporaine.
Votre bibliographie, je le disais, est très très riche. Je citerai seulement, quitte à envoyer des titres en ligne, votre ouvrage qui s'appelle « La Russie face à l'Europe, d'Ivan le Terrible à Vladimir Poutine ». C'est une nouvelle édition augmentée en 2022 dans la collection prestigieuse Champs chez Flammarion.
Oui.
Et puis vous avez donné avec François-Xavier Nérard un atlas historique de la Russie d'Ivan III à Vladimir Poutine. Chez Autrement, en 2024, cela est très utile pour visualiser ces événements que nous avons tâché de restituer ce matin. Votre curiosité est très large puisque vous avez également consacré un livre récemment chez Flammarion à l'exceptionnel destin, c'est le titre, d'Antonin Carême, un des premiers chefs de cuisine extrêmement prestigieux. Nous avions consacré naguère une émission à cette honorable corporation avec Antoine Debecq.
Et on peut considérer qu'il est même l'inventeur de la gastrodiplomatie.
Donc hommage à Carême. Et puis nous disposons d'un excellent ouvrage de Sylvain Venner qui s'appelle « Les guerres lointaines de la paix » avec comme sous-titre « Civilisation et barbarie depuis le 19e siècle » dans la collection Essai chez Gallimard. C'est le conflit notamment de Crimée vu depuis la France. Et puis je renvoie également, nous l'avons cité, au numéro de février dernier de la revue L'Histoire consacrée à la guerre de Crimée avec beaucoup d'images et de précisions. Utile. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec Laurent César à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Hervé Evano pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel. Thank you.